Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Il me semblait qu'une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les changements anatomiques, les renforcements mécaniques qui donnent à l'homme ses capacités à la course d'endurance et à la chasse? Qu'est-ce qui distingue Homo erectus des autres formes d'hominines plus anciennes? Quel est le rôle de la transpiration et de l'expansion de la circulation veineuse dans le crâne? Demande le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin. Pourquoi nos ancêtres préhistoriques recherchaient-ils la viande grasse, les os à moelle? En devenant chasseurs de proies et de charognes, comment sont-ils entrés en interaction avec les autres carnivores, se disputant ou partageant gibier, carcasses et même l'habitat? Comment ont-ils pu coévoluer avec les grands félins, les hyènes ou les canidés? Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléoanthropologie au Collège de France, nous entraîne dans une grande exploration de la prédation chez les hominines dans sa nouvelle série intitulée « L'homme prédateur ». Dans le cours précédent, le paléoanthropologue a ouvert le dossier de l'adaptation biologique à la prédation, présentant nos capacités extraordinaires pour la course d'endurance dans des terrains découverts et par forte chaleur. Il a présenté des changements anatomiques qui ont permis des foulées plus longues, les systèmes de stabilisation, le rôle du labyrinthe membraneux dans l'oreille interne. Cette analyse anatomique et biologique se poursuit aujourd'hui tout en soulignant au détour des cas présentés les adaptations culturelles et techniques. Dans le récent ouvrage collectif intitulé « Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances », Jean-Jacques Hublin revient sur l'apparition de l'espèce Homo erectus qui marque un tournant dans l'évolution et qui représente très vraisemblablement notre ancêtre direct, sa première occurrence remontant à 1,87 million d'années. Dans ce livre, il présente en particulier le squelette presque complet de l'individu de Nariokotome, spécimen très spectaculaire découvert en 1984 sur la rive ouest du lac Turkana. Il est daté entre 1,6 et 1,5 million d'années. Le paléo-anthropologue souligne également que cette description a révélé l'importance des changements évolutifs chez les formes anciennes du genre Homo. Par ses proportions et sa taille, cet individu se rapproche d'Homo sapiens et se distingue clairement des australopithèques et sans doute aussi des premières formes du genre Homo. Il possède de longues jambes, un bassin moins évasé que celui des australopithèques et un tronc avec une taille marquée. Et nous gagnons le Collège de France le 13 novembre 2018 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, l'adaptation biologique à la prédation, partie 2, chasseur ou proie.
On est tenté de mettre un point de départ d'Homo erectus à 2 millions d'années, donc sur le point de départ de nos changements comportementaux. Et donc, on va maintenant travailler cette idée, cette hypothèse que c'est avec cet Homo erectus qu'on a ce passage à une prédation beaucoup plus systématique. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir à quoi ces changements anatomiques correspondent. Et dans les comportements de prédation, certainement, la course d'endurance, c'est quelque chose qui a joué un rôle très très important dans la capacité des hominines, de ces Homo erectus, donc, à capturer des mammifères, parce que la capacité d'endurance des hommes est assez extraordinaire comparée à celle des autres mammifères. Et en particulier, nous avons une grande capacité d'endurance dans un environnement chaud. Alors ensuite, on a des adaptations qui sont liées à la course elle-même et en particulier au fait que quand on court, eh bien, il y a une rotation du bassin hein, pour permettre ces foulées de plus en plus longues. Et cette rotation du bassin, elle doit être compensée par une contre-rotation du torse, hein, en partie pour créer ce mouvement de rotation du tronc qui va contrebalancer le mouvement du bassin et des jambes. Et comme il y a une rotation, une contre-rotation du torse, eh bien, il faut une contre-contre-rotation de la tête pour que la tête ne parte pas dans tous les sens, mais continue à rester dans la même position. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans la course et qui n'a pas besoin d'être là dans la marche. Et de fait, quand on regarde ce qui se passe en termes de changement anatomique entre, disons, un australopithèque et puis ce que l'on reconstitue de l'anatomie d'un Homo erectus, eh bien, on trouve des changements qui permettent ces contre-rotations. Alors, c'est d'abord le dégagement de la tête par rapport aux épaules, donc un cou qui devient plus mobile, si vous voulez, qui permet cette contre-rotation, des épaules qui sont plus larges et qui sont plus basses, et ça, c'est lié à cette rotation du tronc pendant la course, une réduction des avant-bras, un thorax qui devient plutôt étroit, et puis un bassin étroit et un bassin et un thorax qui sont séparés par une taille qui est bien marquée, bien dégagée et qui est assez longue. Hein. Donc ça, c'est pour, j'allais dire, l'anatomie du squelette en général, mais il y a d'autres aspects de détail qui permettent cette stabilisation et en particulier des adaptations qui se manifestent dans l'oreille interne. Alors en ce qui concerne nos représentants du genre Homo et les Australopithèques, ce qu'on voit, c'est un accroissement à partir d'Homo erectus des canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Et ça, c'est lié au fait que pendant la course, il est important que la tête soit bien stabilisée, c'est-à-dire que, au fond, quand vous courez, surtout si vous courez derrière un gibier que vous voulez attraper, il ne faut pas que vous le perdiez de vue, donc il faut que vos yeux soient capables de se maintenir dans une certaine direction. Et donc, les hommes sont assez bons à ça, hein, c'est-à-dire quand ils courent, ils arrivent à garder la tête assez fixe grâce à ces canaux semi-circulaires. Et ce changement, on le voit donc singulièrement avec les Homo erectus. On a aussi des caractères de la colonne vertébrale et du crâne qui évitent les mouvements de la tête un petit peu dans toutes les directions. Donc on a perdu cette projection d'un espèce de museau comme ce qu'on pouvait observer chez des formes primitives d'hominines. On a une tête qui est en équilibre sur la colonne vertébrale et surtout, à l'arrière de la colonne vertébrale, on a un ligament très puissant qui relie les vertèbres cervicales avec l'occipital et qui vient s'attacher sur une crête qu'on appelle la crête occipitale externe à l'arrière du crâne jusqu'à la protubérance occipitale externe. Et ce ligament qui est à la fois solide et élastique permet cette stabilisation. Alors, autre élément de stabilisation du tronc par rapport au bassin, on a une augmentation de l'insertion de certains muscles, en particulier un muscle qu'on appelle erector spinae, hein, c'est le muscle qui tient la colonne vertébrale droite par rapport au bassin. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus important chez un homme que chez un australopithèque. Et puis aussi une augmentation de la surface du gluteus maximus, hein, c'est la fesse. Les hommes ont des fesses que les australopithèques ou les autres primates non humains n'ont pas. Et ça, c'est lié non seulement à la bipédie, mais aussi à cette capacité de course. Je vous ai parlé de réduction du stress mécanique. La réduction du stress mécanique se voit dans le renforcement d'un certain nombre d'éléments squelettiques, spécifiquement chez les représentants du genre Homo. Voilà la colonne vertébrale de ce fameux adolescent de Nariokotome, comparé à une colonne vertébrale d'Australopithèque. Et, entre autres différences, regardez la taille des vertèbres lombaires chez cet Homo erectus comparé à ce qu'on observe chez un Australopithecus africanus. Vous voyez que ces vertèbres sont beaucoup plus massives, enfin le corps des vertèbres est beaucoup plus massif, et donc il peut encaisser des chocs qui sont liés à la course. Dans le bassin, on observe aussi un renforcement très nette. Je vous ai déjà parlé de ce pilier iliaque, hein, qui, dans la crête iliaque, crée un renforcement mécanique très important, donc une résistance à la déformation de l'aile iliaque qu'on ne trouve pas de façon aussi développée chez les australopithèques ou chez des formes plus anciennes bipèdes. Donc là, on a des formes qui sont adaptées à la marche bipède, et là, on a un bassin qui est adapté à la course. Et vous vous souvenez que un des plus anciens Homo erectus dont on ait la trace en Afrique de l'Est, bah c'est justement un bassin comme celui-là avec ce pilier iliaque. Alors toujours sur le bassin, on a un renforcement de l'articulation sacro-iliaque, c'est-à-dire l'articulation entre l'ilium et puis le sacrum. Je dis bien articulation, hein, c'est-à-dire qu'il faut un bassin, c'est pas quelque chose qui est rigide. Hein, il y a des mouvements possibles des différents éléments du bassin au niveau du pubis, au niveau du sacrum et de l'ilium. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on aurait du mal à donner naissance à des enfants. Et donc il y a là une articulation qui n'est pas extrêmement mobile, mais qui est maintenue en place par un grand nombre de ligaments. Soit en passant, quand vous avez mal au dos, mal au bas du dos, souvent c'est cette articulation sacro-iliaque qui vous pose problème. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très renforcé chez les Homo erectus et les formes plus récentes du genre Homo par rapport à ce qu'on connaissait chez les australopithèques, avec en particulier une augmentation de la surface de contact entre ces éléments, donc qui se marient de façon beaucoup plus étroite. Toujours dans l'ordre du renforcement mécanique, alors là, c'est sur l'ensemble du membre inférieur, on a une augmentation de la taille des articulations. C'est-à-dire, quand on regarde la taille de l'articulation entre le tibia et le fémur, par exemple, que ce soit donc la partie inférieure du fémur ou la partie supérieure du tibia, eh bien, on voit que cette articulation est beaucoup plus grosse chez un homme que chez un australopithèque. Et là encore, c'est quelque chose qu'on interprète comme une réponse aux contraintes mécaniques qui sont liées non seulement à la marche et au poids du corps qui est plus important, mais aussi à la course. Alors, il n'y a pas seulement des problèmes de choc mécanique et de renforcement du squelette, il y a aussi des aspects dans la course d'accumulation d'énergie et de restitution de cette énergie. C'est-à-dire qu'à chaque foulée de la course, eh bien, quand le corps va retomber sur un pied, le membre va se plier un peu, et en se pliant, eh bien, il va accumuler de l'énergie dans un certain nombre de dispositifs anatomiques qui vont agir un peu comme des ressorts ensuite pour, dans le fond, renvoyer le poids du corps dans la foulée suivante. Et en particulier, on a une augmentation de la taille du tendon d'Achille, hein, qui relie le tibia au calcanéum. On a une voûte plantaire qui est stabilisée, qui est beaucoup plus à la fois rigide et souple que ce que l'on avait chez les australopithèques, dont le pied se pliait beaucoup plus pendant la marche. Et donc ça contribue, ce tendon d'Achille et cette voûte plantaire avec des ligaments, ça joue ce rôle de ressort. Et puis, on a aussi des renforcements mécaniques, en particulier au niveau du talon. On a un renforcement du calcanéum dans le genre Homo, enfin, en tout cas chez Homo erectus et des formes plus récentes. Et ça, c'est vraiment lié à la nécessité d'encaisser ces chocs mécaniques pendant la course. Alors, certains de ces caractères du pied sont déjà présents chez les Homo habilis. Et alors, évidemment, parce que ces caractères, pour certains, j'allais dire, sont bons pour la marche déjà, hein, et ils sont encore meilleurs pour la course, si je peux dire. Mais on a certains de ces caractères qui sont déjà là. Une articulation calcanéo-cuboïdienne qui est très peu mobile, c'est-à-dire qu'en gros, le pied, la partie centrale du pied est beaucoup plus rigide. Enfin, c'est assez difficile de plier son pied au milieu. On peut plier ses orteils, on peut faire bouger son pied par rapport à son tibia, mais plier le milieu du pied, c'est assez compliqué. On a un hallux, c'est-à-dire un premier rayon, premier orteil, qui est en adduction permanente, hein, il n'est plus divergent. Et puis, On a aussi un raccourcissement des orteils. Et tout ça sont des caractères qui sont favorables à la course. Alors pour Homo erectus, on a énormément d'empreintes de pieds qui ont été découvertes, notamment, encore une fois, en Afrique de l'Est, hein, à l'est du lac Turkana, dans le gisement d'Ilret. On a des centaines d'empreintes de pieds sur des bords de lac. Donc on a pu étudier avec beaucoup de détails, grâce à ces empreintes, les proportions des orteils, l'appui du pied, la façon dont se transmettaient les forces au moment du déplacement. Et pour dire les choses simplement, avec Homo erectus, on a un pied qui est presque indiscernable d'un pied d'homme actuel. Enfin, dernier point lié à la locomotion et à cette capacité de chasse, je vous rappelle donc la capacité chez l'homme de transpirer, hein, avec des glandes sudoripares exocrines qui sont réparties sur toute la surface du corps, de façon qui n'est pas vraiment uniforme, et qui permet un refroidissement très très efficace du corps. Alors c'est quelque chose qui a été rendu possible par la perte d'un pelage dense. Et alors cette histoire de perte des poils et de transpiration, c'est quelque chose qui très probablement est plus ancien que l'apparition d'Homo erectus et même probablement que l'apparition du genre Homo. Et ça, c'est une histoire que nous disent les parasites corporels, en particulier ce pouls de pubis qui, curieusement, chez l'homme, appartient à un genre que l'on connaît aussi chez le gorille. Et on a retourné dans tous les sens la génétique des poux, des puces, celle des parasites, et la seule solution que l'on ait trouvée jusqu'à présent, c'est qu'à un moment donné, ce parasite est passé d'une espèce à l'autre, probablement du gorille aux ancêtres des hominines, et c'est quelque chose qui s'est probablement passé, disons, entre 3 et 4 millions d'années. Donc ça concerne les australopithèques, donc ça suggère que déjà les australopithèques ont une pilosité pubienne séparée de la pilosité qu'ils ont sur la tête, un peu comme les hommes actuels. Donc ce mécanisme de thermorégulation, c'est probablement quelque chose qui précède l'adaptation à la course des Homo erectus. Les australopithèques vivent dans un milieu qui est un milieu quand même essentiellement ouvert en Afrique tropicale, donc c'est quelque chose qu'on comprend assez facilement. Enfin, il y a un autre mécanisme de thermorégulation chez l'homme qui est très important et qui est important surtout chez les formes à grand cerveau, et on va le voir se développer essentiellement justement chez les Homo erectus. C'est une expansion de la circulation veineuse dans le crâne. Donc, dans la tête, dans le crâne, on a du sang qui arrive par l'artère carotide, hein, qui va irriguer le cerveau, et ce sang qui traverse, si je peux dire, le cerveau, qui le nourrit, va en même temps le réchauffer ou le refroidir en fonction des conditions extérieures. Et ce sang, il est recueilli par tout un système de petites veines qu'on appelle des veines émissaires, près de la surface du crâne. Et ce sang va arriver dans des sinus veineux qui parcourent le crâne. Alors, en surface, ils sont surtout très visibles à l'arrière du crâne, mais aussi en profondeur. Et ils vont être renvoyés vers la veine jugulaire. Et ça, c'est un dispositif qui est absolument vital pour les hommes avec leur grand cerveau, parce qu'il ne faut absolument pas que le cerveau surchauffe pendant ces exercices de course. Dans les restes osseux de tous ces hominines pliopléistocènes, on peut voir la trace de ces sinus veineux et on peut voir ces veines émissaires et on voit leur densité augmenter de façon assez marquée chez ces formes. Donc équipé de tous ces caractères, eh bien, on peut, j'allais dire, se lancer dans la course. Et vous voyez que même si la dépense d'énergie augmente avec la vitesse de déplacement, quand on regarde le coût, si je peux dire, du transport en prenant en compte le nombre de kilos de masse corporelle et la distance parcourue, la course représente un mode de locomotion qui est relativement sinon économique, mais du moins stable dans son coût, quelle que soit la vitesse, en tout cas, tant qu'on reste dans un régime qui est un régime aérobique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de régime aérobique ? Eh bien, c'est le fait que quand vous courez à petite vitesse, quand vous faites du jogging, par exemple, eh bien, vous arrivez à respirer suffisamment pour alimenter votre organisme en oxygène et envoyer cet oxygène dans les muscles et aussi rejeter du gaz carbonique en quantité suffisante pour que vos muscles continuent à fonctionner de façon satisfaisante. Et donc ça, disons, c'est un régime qu'on peut assez facilement maintenir jusque autour de, enfin, je dirais pour moi, 10 km/h. Bon, il y a des gens qui courent beaucoup plus vite que ça et qui arrivent à maintenir un régime aérobique à des vitesses plus élevées. Après, au-delà d'une certaine vitesse, les coureurs de sprint, si vous voulez, on passe dans un régime anaérobique où là, on se fiche bien de savoir si on va accumuler des toxines dans les muscles parce que de toute façon, ça dure pas longtemps. Donc, c'est un effort très, très important, mais qui est assez court. Et donc, vous voyez que les capacités d'endurance, en particulier en régime aérobique, sont extrêmement élevées chez les hommes comparées aux chimpanzés. Dans des vitesses qui sont des vitesses de l'ordre de 10 km/h ou un petit peu plus, eh bien, on a une capacité d'endurance qui va au-delà de, disons, entre 1000 et 10 000 minutes. Hein. 10 000 minutes, c'est très long. Hein. déjà, 1000 minutes, c'est beaucoup. Hein. Ça fait plusieurs heures. Hein. Donc, on peut courir pendant plusieurs heures dans un régime aérobique. Et ça, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui peuvent le faire. Donc voilà, je voudrais, pour finir maintenant, vous dire quelques mots, non plus de l'adaptation à la course et à l'endurance pour attraper des animaux, mais plutôt à ce qui se passe après, c'est-à-dire une fois qu'on a attrapé l'animal et qu'il faut le manger. Très probablement, notre ancêtre commun avec le chimpanzé, c'est quand même une créature qui est essentiellement végétarienne. Hein. Et les chimpanzés, même s'ils mangent de la viande, eh bien, c'est quelques pourcents de leur temps d'alimentation comparé à un temps énorme qui est consacré ben, à l'absorption de fruits mûrs de préférence, de graines, de feuilles, de pousses, de fleurs, de toutes sortes de choses comme ça, et d'un petit peu d'insectes. Et donc, le problème de notre Homo erectus et le problème de tous les chasseurs-cueilleurs, c'est qu'ils vont ajouter à cette nourriture végétale, où il y a des hydrates de carbone, un petit peu de protéines, ils vont ajouter des protéines qui sont des molécules d'une nature complètement différente, qui sont des protéines d'origine animale. Et ces protéines d'origine animale, elles se présentent comme ça, enfin, se présentent pas vraiment comme ça. C'est une représentation très, très schématique, ici, d'une protéine d'hémoglobine. Vous voyez, ce sont des chaînes de molécules plus simples qui sont enroulées en forme d'hélice et qui forment des espèces de petites pelotes comme ça, maintenues dans une certaine forme par leurs propriétés électrostatiques. Ces chaînes sont composées, on a déjà parlé, d'acides aminés. Alors, il existe 21 acides aminés qui participent à la construction de ces molécules. En tout cas, chez les eucaryotes, il y en a un de plus qui existe que chez des bactéries. On va l'oublier. Et ces acides aminés, je vous rappelle aussi que notre corps a une capacité limitée à les fabriquer, c'est-à-dire qu'il y a une série d'acides aminés dits essentiels que l'on ne peut pas fabriquer, qu'on est obligé d'absorber à partir d'autres animaux. Alors, ces acides aminés essentiels, il y en a encore plus qui sont encore plus essentiels pour un chat que pour un homme, parce que le chat, il a encore moins de capacité de fabriquer certains de ces acides aminés. Et donc, le problème de la digestion de ces protéines et de l'extraction des acides aminés, c'est en grande partie un problème énergétique. Pourquoi ? Parce que bah, ces chaînes sont des chaînes qui sont assez solides, dans le fond, et quand on absorbe des protéines animales, eh bien, il va falloir casser ces chaînes pour séparer tous ces petits acides aminés et les absorber. Et ça, c'est quelque chose qui explique un certain nombre de différences anatomiques entre l'homme et les grands singes. Vous voyez, notre abdomen n'a pas tout à fait la forme de celui d'un gorille, heureusement. Et ce qui se passe à l'intérieur de cet abdomen, c'est que on a des proportions du tractus, de l'appareil digestif, qui sont assez différentes, avec un intestin grêle qui est assez long chez l'homme comparé à celui qu'on a chez les grands singes, et puis par ailleurs un côlon qui est par contre beaucoup plus développé chez les grands singes. Alors pourquoi cette différence ? Eh bien, tout bêtement parce que c'est essentiellement dans l'intestin grêle que va se produire l'absorption de ces acides aminés, c'est-à-dire que lorsqu'on absorbe des protéines animales, bien elles vont être attaquées par l'action d'enzymes gastriques et pancréatiques. Déjà, dans l'estomac, il y a ce qu'on appelle des peptides, c'est-à-dire ce sont des chaînes d'acides aminés qui sont plus courtes que les protéines que je vous ai montrées, mais qui comportent quand même une série d'aminoacides qui commencent à être absorbés. Mais c'est surtout dans l'intestin grêle que ces chaînes d'acides aminés vont être brisées et que l'intestin grêle va les absorber. Bon, je vous passe sous silence ce qui se passe dans le côlon, mais il en reste un petit peu des acides aminés. Il y a du collagène qui va passer dans le côlon. Et cette digestion, enfin d'une façon générale, la digestion, mais singulièrement celle des protéines, c'est quelque chose qui demande de l'énergie. Et quand on a parlé du métabolisme chez l'homme, je vous ai expliqué que, dans le fond, l'énergie que nous dépensons tous les jours, c'est une énergie qu'on appelle d'une part le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie qui nous sert à nous maintenir en vie, hein, à garder la machine humaine en bon état de fonctionnement. Il y a de l'énergie qui est nécessaire à notre activité physique, encore plus si on veut courir derrière les antilopes pour les attraper. Mais il y a aussi une énergie qu'on appelle l'effet thermique de l'alimentation et qui est lié au fait que le simple fait de digérer les aliments que nous ingérons demande de l'énergie, en particulier pour briser ces chaînes protéiniques que je vous ai montrées. Et alors cette proportion, elle varie beaucoup en fonction d'un certain nombre de paramètres, disons entre 5 et 15% à peu près. Là, c'est une valeur moyenne de 8% qui a été retenue. Ces valeurs, d'ailleurs, elles changent en fonction de la température extérieure. Et il faut savoir que s'il fait froid, eh bien, on va avoir aussi besoin d'énergie pour maintenir le corps à une bonne température. Alors, ce qui est important à réaliser, c'est que cet effet thermique, il varie énormément en fonction de la nature des aliments qu'on absorbe. Alors, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que si vous absorbez, disons, l'équivalent de 100 calories de protéines, eh bien, votre corps va pas absorber ces 100 calories. Il va y en avoir à peu près 30% qui va être perdu, si je peux dire, parce qu'elles sont nécessaires à la digestion de ces protéines. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve avec l'alcool, mais il n'y avait pas d'alcool, j'imagine, chez les Homo erectus. Mais je vous l'indique quand même, parce que ça explique peut-être certaines de vos expériences passées ou présentes, mais l'alcool demande pas mal d'énergie pour être digéré, les protéines. Et alors, à l'autre extrémité, il y a le gras. Et le gras, alors là, c'est formidable, parce que sur une quantité déterminée de gras que vous absorbez, eh bien, le coût en termes de digestion va être entre 0 et 3%. Donc, c'est formidable. Et c'est pour ça que ça n'est pas du tout la même chose de manger de la viande grasse ou de la viande maigre, et en particulier pendant les épisodes de disette que les hommes du passé ont pu connaître. Alors pour finir sur une note un petit peu exotique, je voudrais vous parler d'une expédition qui est l'expédition de Donner, qui est une expédition qui a eu lieu en 1846, et qui s'est terminé en 1847 dans la Sierra Nevada, juste au-dessus de la côte pacifique. Donc il s'agit d'un groupe de pionniers qui sont partis de Independence dans le Missouri, guidés par ce fameux Georges Donner, ils étaient à peu près 80, un peu plus que 80. Et ce groupe, ils étaient plus nombreux. Le groupe s'est séparé en deux parce qu'il y en a certains qui ont voulu prendre une route qui était un raccourci pour arriver plus vite en Californie. Les autres sont passés par la voie habituelle, il n'aurait rien arrivé de spécial. Donc ceux qui ont pris le raccourci, eh bien, ont eu beaucoup de problèmes. Après avoir traversé la région du Grand Lac Salé, ils se sont trouvés bloqués dans la Sierra Nevada à la fin du mois d'octobre par un blizzard absolument extraordinaire comme il n'y en avait pas eu pendant 30 ans. Et ils se sont retrouvés dans cette région, à côté d'un petit lac qui depuis s'appelle le lac Donner. Et ils sont restés là tout l'hiver parce qu'ils n'ont jamais pu aller plus loin. Et ces gens-là, ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim parce que ils ont épuisé leurs réserves. Leurs animaux, ils ont des bœufs et des chevaux avec eux, vont être plus ou moins engloutis par la neige. Et puis, ils vont manger cette viande morte. Ils vont manger tout ce qu'ils peuvent. Ils vont manger les chiens. Ils vont manger le cuir des bœufs qu'ils avaient mangé la semaine avant. Et puis, ils vont finir par s'entre-dévorer. Ils vont finir par manger les morts. Et il y a, sur les plus de 80 participants à cette expédition, il y en a à peu près la moitié qui vont mourir. Et il y en a l'autre moitié qui va survivre. Il y a 15 personnes qui vont partir avec des raquettes dans la neige pour essayer de rejoindre un fort qui se trouve à 150 km. Et sur ces 15, il y en a 7 qui vont arriver. Et il va y avoir donc des expéditions de secours qui vont être envoyées. Je vous raconte cette histoire, pourquoi ? Parce qu'on a le journal de ces gens-là. Et on a le journal où ils racontent ce qui se passe tous les jours. Et on sait ce qu'ils mangent. Et on lit dans ce journal, dans ces journaux, parce qu'il y a plusieurs, il y a des lettres qu'ils ont laissées, des tas de choses. Ils racontent qu'ils mangent les chevaux morts. Hein. Et ces chevaux sont des chevaux qui sont complètement épuisés, qui n'ont plus un poil de gras, hein, puisqu'ils ont été amenés jusqu'à l'épuisement total. Et on voit qu'au début, ils mangent des quantités de viande assez importantes. Mais ces quantités de viande sont des quantités de viande où il n'y a absolument pas de gras. Et ils continuent à dépérir, ils continuent à maigrir et ils vont mourir. Et même quand ils vont se manger les uns les autres, ils vont continuer à mourir. Pourquoi ? Eh bien parce que dans une situation de disette comme celle-là, il est absolument indispensable de maintenir un certain taux de glucose dans le sang pour survivre. Et le problème, c'est que ce taux de glucose, il dépend beaucoup des sucres et des graisses que vous absorbez. Et si vous restez même simplement un jour ou deux sans manger, eh bien, il va y avoir une baisse du glucose dans le sang. Alors, le taux de glucose, il est régulé par un certain nombre de choses, l'insuline en particulier, qui évite que ça aille trop haut. Mais dès qu'on a épuisé la quantité de glycogène qu'on a dans le sang, eh bien, au bout d'un moment, le corps va se mettre à consommer essentiellement des acides gras. Et le glucose qui reste, ou le glucogène, va être entièrement dédié au cerveau. Comme toujours, la priorité est donnée au cerveau. Et après 2 ou 3 jours, le foie va se mettre à fabriquer des protéines, des molécules nouvelles qu'on appelle les kétones. Et le cerveau, peu à peu, va se nourrir de ces kétones au détriment du glycogène qui devient de plus en plus rare dans l'organisme. Et au bout d'environ une semaine, le cerveau obtient à peu près 75% de son énergie de ces kétones. Et si l'épisode de disette se poursuit encore plus longtemps, eh bien à ce moment-là, mais seulement à ce moment-là, l'organisme va commencer à casser des protéines pour se nourrir de l'énergie contenue dans les acides aminés. Mais le problème des protéines, c'est qu'à la différence des sucres et du gras qui se stockent dans le corps humain, sous forme de gras, justement, eh bien, on n'a pas de stock de protéines. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce sont les protéines, par exemple des muscles, qui vont être brisées. Et c'est pour ça que les gens qui sont exposés à des disettes vraiment dramatiques, eh bien, voient leur masse musculaire fondre. Et à l'extrémité de tout ça, eh bien, il y a une forme d'autophagie qui amène à la mort. Et donc, je vous raconte ça simplement pour vous dire que Pour nos chasseurs-cueilleurs qui étaient autrefois plutôt des créatures végétariennes et qui sont passés à ce régime alimentaire, bah, c'est bel et bon d'attraper des animaux pour les manger, mais en fait, ce qui compte le plus pour eux, eh bien, c'est la matière grasse qui est contenue dans ces animaux, beaucoup plus que la viande. Nous, notre fantasme de manger de la viande, c'est un beau steak bien rouge. En fait, pour la plupart des chasseurs-cueilleurs, c'est de manger de la viande grasse. Et la viande grasse est relativement rare dans la nature, en fait, hein, quand on chasse. Et donc, c'est pour ça que dans des gisements paléolithiques, je vous ai parlé de ça à propos de nos sites pléistocènes en Afrique, hein, il y a ce comportement qui consiste à briser systématiquement toutes les cavités médulaires des os pour extraire la moelle. Donc ce qui compte, c'est le gras. D'accord ? Et cela explique aussi que chez les hommes comparés aux autres primates, eh bien, on a un métabolisme très élevé, mais on a aussi des réserves de graisse qui sont beaucoup plus importantes que ce que l'on trouve chez un chimpanzé, chez un gorille, et on a une propension tout à fait naturelle à fabriquer ces réserves de graisse. Tout ça ramené à un poids standard, la comparaison homme-grand singe, vous voyez que donc les hommes ont beaucoup plus de graisse que les autres, et les femmes en particulier, parce qu'elles sont impliquées dans la reproduction et dans l'allaitement des enfants, ont beaucoup plus de masse corporelle en graisse que les hommes. Et la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est que dans l'expédition Donner, je vous ai dit, sur les 80 et quelques, il y en a plus de la moitié qui sont morts, eh bien, il y a à peu près 2/3 des femmes qui ont survécu et 2/3 des hommes qui sont morts. D'accord ? Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les femmes. Et dans les 15 volontaires qui sont partis avec des raquettes dans la neige, qui ont marché 150 km, enfin, ils ont été recueillis par des Indiens avant, mais eh bien, il y avait, sur les 15, les 7 survivants, c'était 5 femmes et 2 hommes. Donc, vous voyez que parfois, c'est pas mal d'être une femme, finalement. Cette discussion, enfin, ce sujet qu'on a abordé déjà plusieurs fois, et qui est très important, c'est que dans ces problèmes d'assimilation de la nourriture, en particulier de la viande, des protéines, etc., eh bien, la préparation, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les hommes. La cuisson, on a beaucoup discuté pour savoir si Homo erectus avait déjà une pratique de la cuisson, de la préparation des aliments, qui réduit l'énergie qu'on investit pour la mastication, mais aussi pour la digestion des protéines. Bon, on n'a pas vraiment de traces de feu associé à ces formes comme celle de Dman ici, mais on sait par ailleurs, par tout un tas d'expériences qui ont été faites, je cite à nouveau mon ami Dan Lieberman, que les hommes, probablement de très longue date, dès les premières consommations de carcasses animales, ont eu des moyens de faciliter l'absorption de ces protéines animales, de ces tissus animaux, non pas en les cuisant, mais en les préparant, si je peux dire, par écrasement, en les hachant, et pour ça, il suffit simplement d'avoir des outils de pierre. Donc, ces adaptations, ce ne sont pas uniquement des adaptations biologiques, ce sont aussi des adaptations culturelles, des adaptations techniques, comme c'est presque toujours le cas chez l'homme.
Le Collège de France et France Culture vous présente le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin, la série L'homme prédateur, aujourd'hui chasseur ou proie, et l'adaptation à la chasse.
Nous avons vu comment l'homme s'insère au sein d'un groupe de primates hominoïdes africains, très proches parents des chimpanzés et des bonobos, et comment ces formes pratiquent une chasse occasionnel, essentiellement centré sur des animaux de petite taille, comparé à la taille des chasseurs. Et évidemment, cette chasse, elle est destinée à alimenter une consommation de viande qui intéresse ces primates. Donc, probablement depuis très longtemps, on soupçonne depuis la date de la divergence entre les ancêtres des chimpanzés et les ancêtres des hommes, Eh bien, cette chasse occasionnelle a existé, et cette consommation de viande aussi, bien sûr. Et ce schéma a probablement prévalu jusqu'il y a environ 2 millions d'années. Puis il y a 2 millions d'années, là, on va voir une intensification de ces comportements. Et cette chasse, elle va devenir non plus occasionnelle, mais assez systématique, avec probablement une transition qui s'organise autour de la consommation de charognes, d'animaux tués par des carnivores. Et surtout, on voit apparaître une prédation sur des animaux de plus en plus grands, et dont certains dépassent largement la taille des hominines, avec tout un comportement complexe de transport des carcasses ou d'une partie des carcasses, et puis d'exploitation de certaines parties plus intensément, et souligne encore une fois l'intérêt pour les graisses, pour le contenu des os, la moelle, etc. Et donc, à travers tous ces changements, dans le fond, ces primates hominoïdes qui sont nos ancêtres directs, hein, ces hominines anciens, eh bien, dans le fond, ils vont changer de niche écologique d'une façon assez radicale. Avec les autres grands singes, on a des êtres qui sont inféodés au milieu forestier, il y a toujours des arbres pas très loin. C'était sans doute encore le cas pour beaucoup d'hominines anciens. Et un changement important, c'est cet affranchissement des arbres. À un moment donné, après 2 millions d'années, on a des formes qui sont pleinement adaptées à la vie dans un milieu ouvert, alors plus ou moins aride, mais enfin, en tout cas, un milieu où les arbres peuvent être rares. Et puis, à cause de cette prédation qui s'exerce sur des animaux de grande taille, des ongulés, et puis aussi à cause de cette pratique sans doute assez fréquente du charognage, eh bien, l'homme va commencer à faire partie de la guilde, si on peut dire, des carnivores. Et à ce moment-là, il va y avoir des interactions d'une autre nature avec d'autres prédateurs. Et ces autres prédateurs, au sein des mammifères placentaires, eh bien, sont les carnivores. C'est l'ordre des carnivores, donc les grands félins, les canidés, les hyènes, qui, dans la nature, sont en général les prédateurs de plus haut niveau, en tout cas dans les environnements que fréquentent ces hominines. Et ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, eh bien, ce sont ces interactions avec ces carnivores qui, vous allez voir, sont assez complexes, de différentes natures. Et on parle souvent de coévolution des hominines et des carnivores. Et on va en dire quelques mots. Alors, pour commencer, je voudrais vous montrer ces photos simplement pour vous dire que le monde des carnivores n'est pas forcément un monde extrêmement aimable. Et ces carnivores, évidemment, ils capturent des proies qui sont généralement des herbivores, des ongulés. Mais ils sont en concurrence les uns avec les autres. Et ça n'est pas une concurrence qui est toujours très amicale. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous verrez, il y a toute une quantité de films qui ont été produits, en particulier sur la guerre des... Ça s'appelle comme ça en anglais, en général, c'est documentaire, hein, la guerre des lions et des hyènes en Afrique de l'Est. Et donc, vous avez tout un tas de situations qui ont été filmées, d'ailleurs, hein, où on voit des hyènes et des lions se confronter. Alors souvent, c'est quand même les lions qui ont le dessus, hein, et qui, quand ils peuvent, attrapent une hyène, une jeune hyène, et puis la tuent et la dévorent. Mais ce ne sont pas toujours les lions qui ont le dessus. Hein. Et puis donc, on a aussi des confrontations plus ou moins agressives entre tous ces carnivores, souvent autour de proies, en fait. Hein. Puisqu'il y a quand même toute une chaîne d'exploitation des carcasses avec un carnivore de premier rang, si je peux dire, qui tue un animal, mais ensuite toute une suite de consommateurs qui vont intervenir. Ça va se terminer par des petits carnivores, des oiseaux charognards, etc. Et donc l'homme va graduellement rentrer dans ce jeu-là, et on a toutes sortes de types d'interactions entre ces hominines et puis ces carnivores. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez nouveau, finalement, quand on considère l'évolution des primates hominoïdes, parce que jusque-là, dans le fond, ce qui se passait essentiellement, c'est qu'occasionnellement, des carnivores pouvaient exercer une prédation sur certains primates, et puis c'est tout. Donc, ces interactions, elles sont de toutes sortes de formes, et puis surtout, elles vont évoluer au cours du temps, depuis donc 2 millions d'années jusqu'à la période historique. Alors d'abord, cette confrontation que je vous ai montrée entre hyènes, lions, léopards, guépards, etc., il va y avoir une confrontation entre des hominines et des carnivores. Et évidemment, dans la vie quotidienne, si je peux dire, des hominines, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que il faut aller chercher de la viande sur des carcasses d'animaux abattus par des grands fauves, c'est un risque supplémentaire de rencontrer les grands fauves et peut-être de finir comme la carcasse. Donc il y a à la fois des confrontations plus ou moins à haut risque. Vous vous souvenez, on a évoqué ce comportement de charognage proactif, si je peux dire. On a appelé ça charognage de confrontation, où on cherche activement à faire partir un prédateur pour récupérer sa proie. Et puis ça introduit aussi une relation de dépendance, dans le fond, parce que si on veut charogner des proies, il faut vivre dans un environnement où il y a des grands carnivores, suivre leurs activités, et puis éventuellement être en éveil pour aller récupérer ces charognes. On a beaucoup parlé de l'adaptation à la course d'endurance, et je vous ai expliqué que la course d'endurance, c'était un moyen, dans le fond, d'épuiser une proie, l'amener à une situation d'hyperthermie, et puis de l'acquérir de ce point de vue-là. Alors on a aussi parfois évoqué la possibilité que cette course d'endurance était aussi un moyen d'être les premiers sur le site d'abattage d'une proie par un grand fauve. Pourquoi ? Parce que dans les savanes africaines, on voit au loin parfois des oiseaux rapaces qui tournent autour d'une carcasse. Et si on peut s'y rendre plus rapidement que, disons, les hyènes, par exemple, eh bien, on va être les premiers à se servir. Alors il y a aussi, assez rapidement, une compétition dans l'acquisition des proies. Et ça entraîne justement ce phénomène de coévolution que j'ai déjà évoqué. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coévolution ? Bien, c'est le fait que dans un environnement particulier où il y a une variété de carnivores, dans le fond, du point de vue adaptatif, l'intérêt de chacune de ces espèces, c'est dans le fond de se spécialiser soit dans un type de proie, certaines tailles d'animaux, par exemple, ou des animaux qui vivent dans un certain milieu, soit dans un certain type de chasse, poursuite, affût, etc., soit dans une niche écologique qui s'insère au milieu de celle des autres carnivores. Et on pense que c'est un puissant facteur d'évolution, en fait, des carnivores. Donc, très souvent, quand on a une grande variété de carnivores qui habitent dans un certain milieu, dans un certain paysage, eh bien, tous ces carnivores ne mangent pas exactement la même chose. Ou en tout cas, n'acquièrent pas les proies exactement de la même façon, justement pour limiter cette concurrence. Et donc, les hominines s'insèrent dans ce mécanisme. Alors, il y a un autre aspect de concurrence avec les carnivores qu'on va voir surtout se développer en Eurasie, en Europe, où on a beaucoup de gisements pléistocènes. C'est une concurrence pour l'utilisation des grottes et en particulier une concurrence avec des animaux qui fréquentent particulièrement ces grottes, des hyènes des cavernes, des ours des cavernes, des lions des cavernes. Alors, on en parlera un tout petit peu. En fait, ce que je voudrais surtout aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur les aspects de prédation des carnivores sur les hominines, et puis de confrontation, et puis aussi, réciproquement, les indices qu'on a de chasse des carnivores par les hominines. Alors, vous verrez que c'est quelque chose qui se met en place de façon assez progressive et difficile. Et puis, dernier aspect de ces interactions entre les hominines et les carnivores, tout ce qui relève du commensalisme et finalement de la domestication. Enfin, ce qu'on appelle la domestication des animaux, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué que simplement acquérir des animaux sauvages pour les rendre utilisables économiquement, singulièrement en ce qui concerne les carnivores. On pense que ce qui se passe, c'est plutôt au départ une forme de ce qu'on appelle un commensalisme, c'est-à-dire que les deux espèces sont, entre guillemets, intéressées à vivre ensemble, en tout cas dans une certaine proximité, avec un échange de, sinon de services, en tout cas de bénéfices à vivre ensemble. Et c'est probablement ce qui s'est passé pour la domestication des loups qui sont finalement devenus nos chiens domestiques. Alors, juste sur ce point de la compétition pour l'habitat lui-même, je vous montre un site qui est un site de Catalogne qui s'appelle Texoneres. Alors, c'est un site que je connais bien parce qu'on a publié il n'y a pas très longtemps avec ma collègue Sara Talamo sur ce site du nord de l'Espagne. Et c'est vraiment un site qui est très intéressant parce que il nous montre comment, dans une même petite grotte, assez étroite, assez profonde, eh bien, on a, au fil des dépôts stratigraphiques, tantôt des carnivores qui y habitent. Et en fait, cette grotte a été essentiellement, au cours du Pléistocène supérieur, une tanière de hyènes. Et donc, on va trouver dans cette tanière des restes de hyènes, surtout des jeunes hyènes, parce qu'elles meurent parfois. On va trouver des coprolites de hyènes, hein, c'est-à-dire des excréments de hyènes fossilisés. Et puis on va trouver un amoncellement d'os qui représente des carcasses d'animaux qui ont été apportées par les hyènes dans cette grotte et qui ont été broyées. Enfin, les os, vous savez, les hyènes vraiment détruisent le squelette jusqu'à la dernière extrémité, hein. Et donc on a ces os broyés. Et tous ces vestiges, on les trouve plutôt dans le fond de la grotte. Quand les hyènes occupent une tanière, elles ont tendance à aller plutôt vers le fond. Et par contre, quand on regarde ce qui se passe plutôt vers l'entrée, vers la sortie, si je peux dire, de la grotte, eh bien on a là des industries lithiques, on a beaucoup de charbon de bois. Et donc on a vraiment la preuve que à la fin du paléolithique moyen, ben cette tanière de hyènes, occasionnellement, elle a été occupée par les hommes. Et c'est assez. Ça implique, si je peux dire, une grande proximité entre les hommes et les hyènes. C'est-à-dire, c'est vraiment. Si on veut occuper la grotte, il faut éjecter les hyènes. Hein. Donc, c'est pas évident parce que vous voyez, c'est quand même des hyènes assez costauds. Hein. Et donc ça, cette situation-là, en fait, je vous montre cet exemple-là, mais c'est un exemple qui n'a rien d'exceptionnel. Hein. On trouve très souvent des situations comme ça. Autrefois, les sites paléolithiques que les archéologues fouillaient étaient souvent regardés comme des accumulations de matériel qui étaient essentiellement dues aux hommes. Hein. Chaque bout d'os qu'on trouvait dans un site paléolithique, par défaut, on pensait que c'était les hommes qui l'avaient amené. Alors maintenant, on sait, avec le développement des techniques de la zooarchéologie, on sait que, en fait, il y a une activité des carnivores dans presque tous les sites qui ont été occupés par l'homme. Donc, gardez quand même en tête que il y a une grande proximité physique, si je peux dire, entre les hommes et les carnivores. Donc, si vous aviez vécu au Pléistocène, vous auriez eu du mal à éviter de rencontrer ce genre de créature. C'est pas toujours forcément une rencontre agréable. On a en Afrique, disons avant 3 millions d'années, hein, quelque chose comme ça, on a une faune de grands carnivores qui est très riche. Alors, il y a des animaux qui ressemblent beaucoup aux animaux qu'on connaît aujourd'hui, hein. Puis il y a aussi des animaux qui sont tout à fait, enfin, étranges, si je peux dire. Cet ours, alors lui, il a disparu il y a assez longtemps. Il a disparu il y a un peu plus de 3 millions et demi d'années en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Mais, disons, les premiers australopithèques ont rencontré cet ours coureur. Donc il y avait des ours en Afrique, hein, à cette époque-là. Et puis on a des hyènes de très très grande taille. Alors, les hyènes, bon, aussi bien en Afrique qu'en Europe, il y a toute une variété de formes. En particulier, je vous ai choisi celle-là, Chasma portetes, qui est une forme de hyène coureuse, qui est adaptée à la course. Donc, celle-là, elle ne devait pas être très sympathique parce qu'elle était capable probablement de poursuivre les proies pendant assez longtemps. Et puis, on a aussi des félins, toutes sortes de félins, et en particulier des félins à canine en lame de sabre. Donc, cette grande variété de félins, de carnivores en général en Afrique, il faut quand même bien comprendre que c'est une variété qui existe aussi à l'époque en Eurasie. Alors évidemment aujourd'hui on a du mal à imaginer ça parce que en Eurasie, à part le tigre en Inde, en Sibérie, il en reste quelques-uns, c'est pas l'Eurasie qui est vraiment le paradis des carnivores. Mais si on remonte dans le Pléistocène, surtout dans le Pléistocène moyen et inférieur, on a en Europe, en Asie et jusqu'en Amérique une variété extraordinaire de carnivores. Alors, on a à peu près toute la gamme, hein, c'est-à-dire qu'on a encore une fois des animaux qui nous sont assez familiers du style ours et du style canidé, des loups, des canidés de plus petite taille. Mais on a aussi, dans toutes ces régions, une grande quantité de félins et une grande quantité de hyénidés. Et en fait, cette variété de carnivores, elle va persister en Eurasie beaucoup plus longtemps qu'en Afrique. Et c'est seulement très récemment, en fait, que toute cette faune très variée de carnivores va s'éteindre. En fait, essentiellement à la fin des temps pléistocènes. Vous voyez que cette carte qui vous montre l'extension de ce que l'on a appelé la steppe à mammouth, qui est un paysage de très particulier des temps glaciaires et périglaciaires en Eurasie. C'est un paysage qui est littéralement fabriqué par les mammouths, hein, parce qu'ils broutent, ils modifient le paysage. Et donc cette steppe à mammouth, elle couvre une très très vaste région qui relie l'Europe de l'Ouest à l'Alaska. Et là, on trouve une continuité de formes, on trouve tous ces carnivores.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 20 novembre 2018 le cours de Jean-Jacques Hublin, l'adaptation biologique à la prédation et la question d'être chasseur ou proie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Biologie de la culture, paléo-anthropologie du genre homo ». Plus récemment, il a contribué à une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain Schnapp, aux éditions La Découverte, INRAP. Et je rappelle son ouvrage avec Bernard Seitre, Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines chez Flammarion en 2008. Iconographie web, Claire Poinsignon. Réalisation, Lorraine Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin la série L'homme prédateur et l'analyse de l'interaction avec les autres carnivores, alors chasseurs ou proies. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.